Le journal Sarah Guibaudeau. Bonjour Sarah.
Bonjour. Ce matin sur France Inter, coup de projecteur sur l'élection présidentielle au Rwanda. Sans surprise, Paul Kagame devrait être reconduit pour un nouveau mandat. Depuis qu'il a renversé en 1994 le régime des génocidaires Hutu, Paul Kagame a ramené la paix et la prospérité. La démocratie, c'est plus discutable. On en parle justement à 8h20 avec vos invités, Laetitia.
Oui, l'écrivaine rwandaise scolastique Mukasonga et Christophe Thibon, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs.
Dans ce journal, portrait de la nouvelle ambassadrice des États-Unis en France, une femme d'affaires. Les livreurs à vélo de Deliveroo dénoncent le pédaler plus pour gagner plus. L'avocat de Muriel Boll espère obtenir aujourd'hui sa remise en liberté. La SNCF fait son mea culpa après la panne de la gare Montparnasse. Changer le regard sur le handicap, ça commence avec les enfants dans certains centres de loisirs de la ville de Paris. Un bol d'air sur les monts d'Ardèche où des artistes nous font voir la ligne de partage des eaux. Et puis Neymar, bien sûr, qui arrive au Paris Saint-Germain. Le premier match de la star du foot en Ligue 1, ce sera normalement à Guingamp, où l'on se réjouit de le recevoir.
France Inter.
7 millions de Rwandais sont appelés aux urnes, mais l'issue de l'élection présidentielle ne fait quasiment pas de doute. L'homme fort du pays depuis plus de 20 ans, Paul Kagame, devrait repartir pour un troisième mandat. Il faut dire qu'il mène une politique de développement qui porte ses fruits et qu'il a réduit l'opposition au silence, Bertrand Galichet.
Élu chef de l'État en 2000, le Tutsi Paul Kagame dirige en fait le pays depuis 1994. Cette année-là, à la tête du Front patriotique rwandais, il s'empare de la capitale Kigali et met fin au génocide qui a coûté la vie à 800 000 personnes. Paul Kagame a fait modifier la constitution, ce qui lui permet de se représenter pour de nouveaux mandats jusqu'en 2034. Sur le continent africain, le président rwandais est perçu comme celui qui a ramené la paix et la prospérité. Une modernisation à marche forcée, au prix d'un autoritarisme assumé. À 59 ans, Paul Kagame reste solidement installé au pouvoir, réprimant sans état d'âme ses opposants qui finissent souvent en prison ou en exil. Ce père de 4 enfants à l'allure austère s'en prend aussi aux défenseurs des droits de l'homme et aux médias. Seuls 2 autres candidats quasiment inconnus des Rwandais ont été autorisés à se présenter à cette présidentielle. Face aux critiques, Paul Kagame dénonce l'arrogance de l'Occident et en particulier de la France en l'accusant d'avoir joué un rôle dans le génocide rwandais.
Au Venezuela, le président Maduro installe aujourd'hui la nouvelle Assemblée constituante. Il a demandé hier qu'il n'y ait pas de provocation alors que ses partisans et ses opposants prévoient de manifester. Le parquet général a demandé l'annulation de cette installation à cause des soupçons de fraude, mais jusqu'ici, la Cour suprême a toujours donné raison au pouvoir. Le Venezuela, qui devrait demain être suspendu du Mercosur, l'espace de libre-échange sud-américain. En Australie, le projet d'attentat à la bombe dans un avion déjoué le week-end dernier était bien téléguidé par le groupe État islamique. C'est la conviction des enquêteurs. 2 suspects ont été inculpés hier. Il avait trouvé la faille pour stopper le virus WannaCry qui a sévi au mois de mai. Avant de devenir un expert respecté en cybersécurité au Royaume-Uni, Marcus Hutchins, alias MalwareTech, est pourtant accusé d'avoir fabriqué un logiciel pour pirater des informations bancaires. Il a été arrêté hier à Las Vegas en plein rassemblement de hackers du DEFCON. Plus de 6 mois après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la haute administration américaine n'a jamais connu un tel retard dans les nominations de ses chefs. Il manque encore beaucoup d'ambassadeurs, notamment, mais on connaît désormais le nom de la représentante des États-Unis en France, Jamie McCourt. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Elle a été mariée à l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille et comme lui, elle vient du monde des affaires, Philippe Frandet.
Elle devait d'abord être l'ambassadrice américaine en Belgique, mais Donald Trump a finalement changé d'avis. Jamie McCourt sera, si le Sénat approuve sa nomination, ambassadrice en France. Jamie McCourt, 63 ans, femme d'affaires, avocate, développeuse de projets immobiliers. Bref, une nomination qui n'est pas vraiment surprenante, tant cette Californienne est proche du profil préféré de Donald Trump, du pouvoir, de la réussite et surtout de l'argent. Pendant la campagne présidentielle américaine, elle a donné plus de 400 000 dollars pour le soutenir. Jamie McCourt, dont l'ancien mari, Franck, est l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille. Jusqu'à leur divorce en 2011, le couple couple McCourt était propriétaire du club de baseball, les Dodgers de Los Angeles. Le couple qui à cette époque est critiqué en Californie pour son train de vie luxueux et sa gestion très acrobatique de la franchise. Lors du divorce ultra médiatisé, Jamie McCourt obtient 131 millions de dollars en échange de son abandon de toute prétention sur le club. Jamie McCourt qui possède un diplôme de la Sorbonne et qui parle français. Washington, Philippe Rondé, France Inter.
8h05 sur France Inter, la suite du journal Sarah Guibaudot. La réforme du Code du travail sera présentée le 31 août.
C'est ce que précise ce matin le Premier ministre Édouard Philippe dans une interview au Parisien. Le Parlement a voté mercredi le texte qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Le Premier ministre confirme aussi qu'il y aura 10 milliards d'euros de baisse d'impôts l'année prochaine et donc autant d'économies à trouver dans le budget 2018 qui comprendra néanmoins des orientations ambitieuses, je cite, pour les armées, l'éducation, l'écologie et la justice. Les emplois familiaux sont désormais interdits au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le premier volet du projet de moralisation de la vie publique a été voté hier. Députés et sénateurs qui font de la résistance ont jusqu'au 9 août pour se mettre d'accord sur la suppression de la réserve parlementaire et le deuxième volet donc de ce texte. Pour être payés, les livreurs de Deliveroo devront peut-être pédaler plus. Ils protestent en tout cas contre les nouvelles modalités de rémunération que veut imposer l'entreprise qui apporte les repas à domicile. Une rémunération à la course en supprimant la partie fixe du salaire. Le reportage de Boris Théier.
Hugo est livreur pour Deliveroo. Il gagne actuellement 7,50€ de l'heure plus 2,50€ pour chaque commande. Mais la plateforme de livraison de repas veut modifier son contrat pour le payer 5,75€ par course.
Cette rémunération elle est en vigueur déjà depuis quasiment un an. Et là, il demande à tout le monde d'y passer. C'est où tu passes, où on arrête de travailler avec toi.
600 bikers, les plus anciens sur les 7500 que compte Deliveroo en France, sont concernés par ce changement de rémunération. Ils ont jusqu'au 28 août pour donner leur réponse. Ils se plaignent d'un manque de visibilité, d'une course à la performance, en fait d'une précarité toujours plus grande. Et pour Jérôme Pimaud, fondateur de l'Union des livreurs à vélo engagés, Deliveroo aimerait aller encore plus loin.
Une fois que tout le monde sera au tarif à l'heure, c'est lui qui va se casser la figure, donc on sera plus à 5,75€ à Paris, on sera à 5€, ils vont être à 4€ en province. Le travail de ces plateformes-là, c'est de faire baisser le coût du travail. Deliveroo, ils ont une position dominante, donc ils font tout ce qu'ils veulent.
Les livreurs estiment qu'il n'y a pas assez de commandes pour en faire plus de 2 par heure. La direction de Deliveroo avance de son côté une hausse du nombre de commandes et la possibilité de réaliser entre 2 et 3 commandes par heure en semaine. Selon elle, sur les 3 derniers mois, les livreurs payés à la course ont vu leur revenu augmenter de 7% en moyenne.
L'incendie qui a détruit 160 hectares hier dans la montagne à Palneca en Corse du Sud est très difficile à combattre, difficile d'accès pour les pompiers. Le GR20, le Marais Monti et le Marais à Marais ont été fermés aux randonneurs. Le risque incendie reste très sévère aujourd'hui. La Corse reste en vigilance orange pour la canicule, comme 13 départements du sud-est de la France. Plus d'un mois après sa mise en examen pour l'enlèvement du petit Grégory, la cour d'appel de Dijon examine ce matin la demande de remise mise en liberté de Muriel Boll. Le 28 juillet, lors d'une confrontation avec son cousin, elle est restée sur sa position. Elle affirme qu'elle n'a pas reçu de raclée après avoir à l'époque accusé son beau-frère Bernard Laroche avant de se rétracter. Quoi qu'on pense des derniers développements de l'enquête, 32 ans après, sa place n'est pas en prison, estime son avocat Jean-Paul Tessonnière.
Elle vit sa détention avec beaucoup de difficultés, on le comprend. L'hostilité des co-détenus dans des cas comme cela est bien connue et elle en subit durement les conséquences. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles la décision de la mettre en détention a été prise. Elle a été considérée comme témoin pendant 30 ans. Pour quelles raisons, aujourd'hui, décide-t-on de changer son statut ? On peut se poser la question de savoir s'il n'est pas question d'exercer des pressions aujourd'hui sur elle. Il faut que, de façon urgente, Muriel sorte de la maison de détention où elle est à l'heure actuelle. On a pris toutes les dispositions pour que, de toute façon, là où elle irait dans l'hypothèse d'une libération, nous avons trouvé un hébergement qui répond à toutes les conditions, à la fois de sécurité, de distance, d'éloignement, d'absence de contact avec le milieu familial, puisqu'il semble que ce soit ça qui soit exigé. On a fait de très gros efforts pour devancer les inquiétudes qui peuvent être celles de la cour d'appel.
Maître Jean-Paul Tessonnière répond à Corinne Audouin. Le procureur général de Dijon s'oppose, lui, à la remise en liberté de Muriel Boll pour l'efficacité de l'enquête, selon lui. La décision est attendue dans l'après-midi. La SNCF s'engage à revoir sa communication et à mieux réorganiser le trafic en cas d'incident. La compagnie a rendu hier son rapport sur les suites de la panne qui a affecté la gare Montparnasse. Elle reconnaît que ses services ne se parlent pas toujours, d'où les informations contradictoires données aux voyageurs. Des passagers, par ailleurs invités à changer de gare et à monter dans le premier train. Une méthode aussi à revoir. Le rapport est consultable sur Internet. La Fédération nationale des associations d'usagers des transports partage ses conclusions. Maintenant, tout reste à faire, souligne son porte-parole, Christian Broucaret. Il le dit à Gaël Joly.
On le savait, c'est que les services ne se parlent pas entre eux. Et là, on le voit clairement. Par exemple, le service de maintenance, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils font leur travail, mais les autres services ne le savent pas, ne reçoivent pas toujours les informations. Ce qui est dit aussi dans le rapport, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux d'informations contradictoires qui arrivent aux clients, et donc c'est très dommageable pour l'image de l'entreprise. Et puis c'est pas simple pour les usagers, parce que les pauvres gilets rouges qui étaient à Montparnasse, on peut pas les laisser dans un désarroi, comme le désarroi qu'ils ont connu. Je pense que là, il faut que ce soit un électrochoc pour la SNCF et qu'elle prenne bien conscience qu'aujourd'hui, elle n'a plus affaire à des usagers captifs. Aujourd'hui, les gens, quand ils se déplacent, ils ont le choix entre le covoiturage, l'avion, les autocars Macron. Il faut que la SNCF passe d'une culture usagée à une culture client. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ça va être un électrochoc dans l'entreprise pour qu'on arrive à cette situation qui est assez normale dans une entreprise de service.
9 centres de loisirs parisiens réunissent pendant les vacances des enfants handicapés, autistes, malentendants ou malvoyants. Avec des enfants valides, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a visité hier l'un de ces centres de loisirs à parité. Vous y étiez, Géraldine Allot, dans le 14e arrondissement et l'expérience est concluante.
Dans la cour de récréation, des garçons surexcités jouent au foot, comme dans n'importe quel centre de loisirs. En voyant notre micro, Michel-Ange s'approche. Il est autiste, sourd et muet. Rachel, 6 ans, et Ramatou, 11 ans, viennent spontanément traduire ce que les mains de Michel-Ange veulent nous dire.
En fait, il est un handicapé.
Et donc, tu lui parles comment ?
Je parle en langue des signes.
Qu'est-ce que tu as appris à dire en langue des signes ?
Pardon, bonjour, merci.
Ça te plaît d'être ici avec des enfants qui, eux, sont handicapés ?
Oui, ça me plaît bien. Pour moi, ça ne change rien. Qui sont normales comme moi.
Une partie d'enfants vont installer eux-mêmes les tables.
Nathalie Emo est responsable des centres de loisirs à parité à la mairie de Paris.
En quoi c'est bien de mélanger les enfants sans handicap avec les enfants avec handicap dans le même centre ?
Eh bien, ça change tout. C'est beaucoup plus de tolérance. C'est des enfants qui se responsabilisent aussi vis-à-vis des enfants en situation de handicap. Des images comme un enfant de 13 ans très grand et qui est ramené par un enfant de 4 ans. Mais il y a plein de petites bulles de bonheur comme ça.
Alors bien sûr, tout n'est pas rose, notamment quand des enfants autistes font des crises violentes. Mais un signe ne trompe pas. D'une année sur l'autre, tous les enfants dits valides reviennent dans ce centre de loisirs.
Sur les monts d'Ardèche, la ligne de partage des eaux devient cet été un parcours artistique. D'un côté l'Atlantique, de l'autre la Méditerranée. Cette ligne, c'est aussi celle qu'emprunte le GR7 pour la randonnée. Et sur une centaine de kilomètres, des artistes ont donc mis en valeur le patrimoine architectural. Isabelle Pasquier.
Sous mon pied droit, l'eau s'écoule vers l'Atlantique, sous mon pied gauche, vers la Méditerranée. Sur ces monts d'Ardèche balayés par les vents, des artistes ont créé des installations qui rendent visible cette ligne invisible, comme cette tour à eau de Gilles Clément ou ce phare bleu de Gloria Friedman. Et celui qui a rêvé ce parcours artistique, c'est David Moinard.
Il y a cet ensemble d'œuvres qui viennent montrer la ligne dans le paysage. Et puis, il y a des œuvres qui sont attachées à des sites en particulier. Une ruine d'abbaye. Et donc, j'ai invité des artistes à venir répondre à ces sites, à venir penser des œuvres qui révèlent ces sites, qui engagent en tout cas un dialogue entre le site et la création.
Vision magique, les cercles à la feuille d'or tatoués sur la peau de l'abbaye de Mazan par Felice Varini qui réveille des pierres endormies depuis 9 siècles. Élodie Blanc est responsable du site.
J'ai l'impression, avec ces rubans dorés, qu'on a mis un paquet cadeau autour de mon abbaye et qu'en fait, ça nous incite à la regarder autrement. Et avec chaque lumière, coucher, lever de soleil, grand soleil, nuages voilés, c'est toujours différent.
Et projet plutôt délirant, l'artiste Wang Yongping va faire s'échouer une réplique de la Santa Maria, la caravelle de Christophe Colomb, dans cet océan de montagne. Sur les monts d'Ardèche, l'art fait basculer le réel et le magnifie.
8h14 sur France Inter. On y vient malgré les protestations de la Ligue de football espagnole qui dénonce un dopage financier. Le Brésilien Neymar a donc bien signé hier pour 5 ans au Paris Saint-Germain.
Oui, beaucoup a été dit sur la démesure de ce transfert à 222 millions d'euros, rien que pour la somme que le PSG a dû verser au Barça. Alors pour revenir sur Terre peut-être, la star planétaire Neymar pourrait disputer son premier match de Ligue 1 contre Guingamp le 13 août. Antoine Comboiré, l'entraîneur de Guingamp et ancien du PSG, se réjouit de l'accueillir.
C'est exceptionnel. Voilà. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut remercier le Qatar. Remercier donc le PSG. Aujourd'hui, grâce au PSG, la Ligue 1 française, elle sera connue dans le monde entier. Moi, je parle purement foot. Hein. Voilà, c'est fantastique. Aujourd'hui, on aurait eu un stade au Rodourou de 200 000 places. Je pense qu'on peut les remplir. Les gens viendraient du monde entier. Et je dis bien du monde entier. On est donc ici dans l'idée de se dire qu'on a la chance... Moi, en tant que Calonne, parce que je suis aussi Calonne, de recevoir Neymar ici, et puis surtout de tout faire pour les taper, quoi. Voilà. De pouvoir proposer Neymar ici à nos supporters, là, et puis de dire que, ben, tant pis pour toi, Neymar, tu vas subir ta première défaite de Rodoro, ça me plaît. Cette idée-là me plaît beaucoup.
Première conférence de presse et présentation aux supporters de Neymar cet après-midi. Et puis quand la police envoie des cartes postales aux criminels les plus recherchés d'Europe, cela donne par exemple à l'intention d'un braqueur. Cher Farouk, tu dois savoir que la vie est meilleure dans la douce France. Nous espérons te revoir bientôt. C'est à lire sur le site d'Europol. Et depuis que l'Office européen de police communique sur les personnes les plus recherchées, 36 d'entre elles ont été arrêtées depuis janvier 2016.
Merci Sarah, c'était le journal de Sarah Guibaudot.